Le journal, Bernadette Chamonas. Bonjour Bernadette.
Bonjour, j'aurais mieux fait de ne pas venir. Johan Diniz, entre amertume et colère, dans la fournaise de Doha, il perd sur abandon son titre mondial du 50 km marche. Pour les Bleus, ces mondiaux d'athlétisme ressemblent pour l'instant à un chemin de croix. L'hommage populaire à Jacques Chirac aux Invalides aujourd'hui, mais aussi en Corrèze, nous y serons. Rouen, déjà une dizaine de plaintes déposées pour mise en danger de la vie d'autrui après l'incendie de Lubrizol. Sécurité sociale, déficit toujours, 5 milliards d'euros, on verra pourquoi. Et enfin, cinéma et BD, le couple qui fonctionne. La preuve par le festival BDRama à Paris ce week-end.
Et à 8h10, votre invité, Patricia Martin.
Xavier Emmanuelli, fondateur du SAMU Social, ancien secrétaire d'État à l'action humanitaire sous la présidence de Jacques Chirac.
France Inter. Bernadette, dans la fournaise de Doha, Johan Diniz abandonne.
Ne pas se chercher d'excuses, mais tout de même, en pleine nuit, quand le 50 km marche démarre, il fait 32 degrés et surtout l'humidité vous trempe instantanément. 75% de taux d'humidité. Le Français, champion du monde en titre, n'a pas supporté. Au 16e kilomètre, il lâche prise, laissant le Japonais Yusuke Suzuki lui ravir son titre, Vincent Pellegrini.
Johan Diniz avait prévenu, il ne prendrait aucun risque avec sa santé dans la fournaise de Doha. Après avoir fait partie du groupe de tête au début de l'épreuve, il a très vite été lâché. Il n'avait plus de jambes, plus de rythme, plus d'envie. Au 16e kilomètre, après 1h20 d'effort, Johan Diniz a jeté l'éponge, visage marqué et très désabusé.
J'étais motivé au départ pour défendre mon titre, mais et puis ça voulait pas quoi. Donc c'est la frustration, un an de perdu. Pas un an parce que j'ai fait une bonne perf en Lituanie, mais ça sert à rien de gagner la Coupe d'Europe et d'avoir la meilleure perf mondiale de l'année. Ça sert à rien parce qu'il fallait être champion du monde ici. Et puis voilà quoi, c'est juste repartir sur du doute alors qu'on était sur beaucoup de positifs depuis pas mal de temps. Et puis là voilà, je suis rincé, je suis out.
La saison de Johan Diniz s'est donc achevée. Cette nuit, dans la douleur, il va désormais se tourner vers les Jeux Olympiques de Tokyo l'an prochain, où il tentera de décrocher le seul titre qui manque à son palmarès. Doha, Vincent Pellegrini, France Inter.
Ces mondiaux du Qatar ne réussissent pas décidément aux Français. Alexandra Tavernier, 6e de la finale du marteau, bien loin de la médaille d'argent des championnats d'Europe l'an dernier. Renaud Lavillenie, éliminé dès les qualifications de la perche. Jimmy Vico, 7e des demi-finales du 100 mètres. La course reine qui est remportée par l'Américain Coleman en 9 secondes 76.
7h33, Bernadette, les Français poursuivent leur hommage à Jacques Chirac.
Par des manifestations inédite sous la 5e République lors du décès d'un chef d'État, comme ces registres mis à leur disposition à l'Élysée pour écrire un mot personnel en mémoire du président défunt. 5000 personnes l'avaient fait déjà hier soir. Inédite aussi la présence du cercueil auprès duquel les Français pourront se recueillir aujourd'hui dans la cour des Invalides à partir de 14h. Demain, les cérémonies seront plus officielles. Chef d'État étranger, Emmanuel Macron, seront présents en l'église Saint-Sulpice pour la messe des funérailles. En Corrèze, on préfère encore rester sur les images du bon vivant, comme au Pêcheur de Lune, le restaurant de la commune de Corrèze, le même nom que le département. Vous y êtes attablé un instant, Sébastien Sabiron.
Une grande table devant une imposante cheminée en granit, c'est ici que Jacques Chirac s'attablait presque tous les jours de juillet. Dominique Marquis, patron du Pêcheur de Lune.
Un jour, je lui ai proposé du poisson, il a fait la moue, il m'a dit non, le poisson, pas trop, moi. C'était quelqu'un qui aimait manger des blanquettes, des bourguignons, de la charcuterie. Et la tête de veau, je lui en ai fait de temps en temps, mais il mangeait pas que ça non plus.
Un Chirac sans chichi, se souvient Dominique Marquis. Hormis la présence de ses gardes du corps, l'ex-chef de l'État était un client comme les autres.
Il n'y avait aucun protocole, rien de particulier. Il mangeait au milieu des clients. Et lorsqu'il arrivait vers 13h, le président Chirac allait voir toutes les tables en terrasse, saluer tout le monde, souhaiter bon appétit avant d'aller s'asseoir lui-même à sa table.
Quelques années plus tôt, lorsque Bernadette Chirac fêtait ses propres victoires électorales locales, son président de mari la rejoignait discrètement par les cuisines du restaurant, saluant chacun des 200 convives avec une joie non feinte.
Je pense qu'il s'emmerdait dans les mondanités et qu'ici, il se sentait utile et que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur de pouvoir aider les gens, leur rendre service et les écouter.
Demain, le restaurateur sera présent à l'église Saint-Sulpice pour un dernier adieu au plus illustre de ses clients. Dans la commune de Corrèze, Sébastien Sabiron, France Inter.
Et en Corrèze, il y aura des cérémonies d'hommage à la fin de la semaine. Demain, en tous les cas, la journée sera la journée de deuil national. Une minute de silence à 15h dans toutes les écoles et administrations. Jacques Chirac sera inhumé dans l'intimité au cimetière du Montparnasse. À Rouen, la fumée noire s'est dissipée, mais pas l'inquiétude, même si les premiers résultats d'analyse de l'air ne montrent pas de toxicité particulière. Les habitants, les agriculteurs s'interrogent sur les effets à long terme après l'incendie de Lubrizol. Plusieurs passent même à l'offensive sur le plan judiciaire avec les premières plaintes déposées hier. Théophile Pedrola.
Des plaintes ont été portées à la connaissance du parquet, que ce soit à Rouen ou ailleurs. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache, sans communiquer de chiffres précis. Au moins une dizaine de plaintes de personnes physiques mais aussi morales nous ont été confirmées et une vingtaine pourraient suivre à partir de demain. Selon Jonas Haddad, l'un des avocats, un de ses clients a fait un malaise en pleine nuit avant de tomber. Il a dû se faire poser des points de suture. En tout cas, ces plaintes ont été suffisantes pour le procureur afin d'élargir hier l'enquête policière au chef de mise en danger d'autrui, enquête qui doit permettre d'établir des responsabilités. Pour ce qui est des plaintes, selon Jonas Haddad, elles peuvent se justifier par des articles du code pénal mais aussi du code de l'environnement et sont donc tout à fait recevables malgré les annonces hier du préfet. Les avocats concernés par ces plaintes se réuniront demain midi avec le bâtonnier du barreau de Rouen. Objectif, centraliser les informations et les plaintes.
Et au niveau politique, la gauche demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et d'une enquête administrative. Compte de la sécurité sociale encore raté. Le gouvernement espérait un retour à l'équilibre en fin d'année, mais le déficit dépasse encore les 5 milliards d'euros. En raison notamment, Fabien Cazot, des mesures prises pour répondre aux gilets jaunes.
Il y a d'abord les mesures prises en faveur des retraités qui pèsent dès cette année sur les comptes sociaux. D'une part, la baisse de la CSG pour ceux gagnant moins de 2000 euros par mois, 1,6 milliard de cotisations en moins pour la sécurité sociale. D'autre part, la réindexation des pensions sur l'inflation, également jusqu'à 2000 euros mensuels. En plus de la branche vieillesse, il y a aussi plusieurs mesures prises en faveur des actifs qui privent la sécurité sociale de cotisations. Les exonérations sur les heures supplémentaires, par exemple, plus d'1 milliard d'euros de manque à gagner, ou encore la prime exceptionnelle de fin d'année dans les entreprises instaurée l'an dernier et qui sera reconduite cette année. Hors de question à ce stade d'envisager des compensations de la part de l'État, même si certains parlementaires dans la majorité souhaitent ouvrir une négociation avec Bercy à ce sujet, la perspective d'un retour à l'équilibre financier des comptes sociaux s'éloigne désormais à l'horizon 2023.
À l'étranger, les législatives aujourd'hui en Autriche, les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Elles pourraient entraîner au pouvoir une nouvelle coalition conservateur extrême droite. À Rome, l'Église catholique célèbre la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le pape François présidera ce matin une messe au cours de laquelle il devrait rappeler l'importance de l'accueil.
La bande dessinée et le cinéma, un couple qui fonctionne bien.
Et même de mieux en mieux, festival de BD qui parle de films, albums adaptés à l'écran, le forum des images à Paris innove encore. Tout le week-end, le festival BDRama se concentre, Bastien Munch, sur les passerelles entre 7e et 9e art.
La BD mythique Zaï 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 de Fab Caro doublée et bruitée en direct, des dessinateurs de BD qui créent une affiche d'un film imaginaire. Aucun doute, BDRama montre que la bande dessinée et le cinéma ne se sont jamais quittés des yeux, et ce depuis toujours. Fabien Gaffé est le directeur des programmes du Forum des Images.
Peut-être qu'on a toujours recherché dans le dessin du mouvement. Et ensuite, c'est vrai que toute une génération, depuis 15 voire 20 ans, d'auteurs de BD sont vraiment dans cet univers-là. Enfin, c'est-à-dire le cinéma a fait partie aussi de leur imaginaire.
C'est le cas de Mathieu Sapin, invité fil rouge de cette première édition de BDRama. D'un côté dessinateur, avec ses célèbres BD documentaires Le Château et Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. De l'autre, réalisateur, avec son film Le Poulain, sorti en 2018. Mais Mathieu Sapin fait attention à ne pas mélanger les deux arts.
La BD est beaucoup plus proche de la littérature, par le fait qu'on entre dans une bande dessinée chacun à son rythme, et on n'est pas comme au cinéma imposée par le rythme de défilement de l'objet film. Voilà, vraiment deux disciplines qui sont cousines, mais très différentes.
Deux disciplines entre lesquelles Mathieu Sapin fait des allers-retours. Pour son film Le Poulain avec Alexandra Lamy, il s'est par exemple inspiré de sa propre bande dessinée sur la campagne présidentielle de François Hollande.
Masterclass, projection, le festival Bédérama, c'est jusqu'à ce soir au Forum des Images à Paris.
C'était le journal de Bernadette Chamonnaz. La météo aujourd'hui.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Les couleurs du ciel avec Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, prudence dans la Manche.
Oui, tout à fait. Une mer démontée en Manche aujourd'hui, conjuguée à de forts coefficients de marée, avec un vent de secteur sud-ouest à près de 100 km à l'heure sur les caps exposés de la Normandie et des Hauts-de-France. Et puis une vigilance orange lancée pour le littoral du Pas-de-Calais en raison du risque de submersion des zones les plus basses de la côte vers la mi-journée, c'est-à-dire à l'heure de la pleine mer. Donc de mauvaises conditions, pilotées par une dépression qui circule entre l'Angleterre et l'Europe du Nord, qui va donner un temps agité et pluvieux ce matin du nord de la Loire à la Belgique, avec un vent de secteur sud-ouest à 70 km à l'heure dans l'intérieur. En journée, pluie et vent vont gagner vers le Poitou-Charentes, le centre, le nord de la Bourgogne et de la Lorraine. Tandis que plus au sud, là, le soleil sera vaillant, malgré un ciel un peu plus voilé en seconde partie de journée, sur le Bordelais, le Massif central et la frontière allemande. Et puis ce soir, le vent va également souffler assez fort sur les crêtes vosgiennes. Les températures élevées pour la saison vont afficher jusqu'à 31 degrés cet après-midi près de la Garonne, 26 à 28 de la Méditerranée à Rhône-Alpes, 23 à 25 des Charentes au centre et au quart nord-est, et 18 à 20 degrés dans la moitié nord du pays.